le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Radio Imo et Radio Territoria. Vous avez été nombreux ce matin à nous partager vos informations, vos commentaires. Certains commentaires qui étaient un peu chauds, on peut le dire. Mais vous avez raison, il faut se manifester. Une bonne démocratie déploie sa vitalité quand on peut échanger, débattre, même si on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est un bon signe dans notre pays. Merci. 81e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. On a pris un peu de retard sur cette table ronde. On est ensemble pour une quarantaine de minutes autour d'une thématique en partenariat avec les ciments calcaires. Justement, on est sur le cœur de l'événement. On avait d'ailleurs fait une très jolie table ronde qu'on avait fait dans Paris. Là, on va continuer un petit peu le parcours pour parler en fait de justement les paradigmes qui nous attendent sur l'acte de construire, sur le logement et comment finalement nous allons assumer cet état de fait que le logement, la construction, ça reste aussi le premier facteur d'inclusion sociale dans une société dite moderne. On est ensemble pour une quarantaine de minutes pour en parler des professionnels de la construction qui ont un regard aussi sur le métier, mais pas que, aussi un regard sur la fabrique, j'appelle moi la fabrique de la ville, ou cette nouvelle urbanité. Sur le plateau, Patrick Soubiran, directeur commercial de l'entreprise CIR Construction Industrielle Rationnelle, qui est une entreprise de BTP. Vous êtes spécialisé en préfabrication, on va en parler tout à l'heure. Merci d'être avec nous, Patrick.
Merci.
Stéphane Delomo est avec nous, directeur commercial Ciment Calcia. Comment ça va, Stéphane ?
Très bien. Et toi ?
Comment ça va ?
Parfait.
Bon.
Pas très bien.
Vous avez la pêche ?
Excellent.
C'est un bon salon pour vous ?
Oui, c'est un bon salon. Ouais. J'ai un peu couru pour venir, mais ça va être un très bon salon.
Oui. Voilà, je vous vois un peu. Habituellement, il est beaucoup plus prolixe, mais ouais. On va vous laisser respirer et prendre un peu. Voilà, vous avez des petites brochettes devant vous. Voilà. Vous avez vu, on fait dans l'économie, presque dans le bio. On a des petites brochettes de fruits pour ceux qui le veulent. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. Stéphane, je rappelle que vous êtes directeur commercial, Ciment Calcia. Et vous êtes, l'une des majeures du ciment dans le monde de l'industrie.
Co-leader du marché, oui.
Voilà. Vous n'êtes pas hyper nombreux en même temps, faut le dire.
C'est vrai, faut le dire.
Mais vous occupez une place prépondérante. Franck Gourdel est avec nous. Il est directeur technique innovation à la compagnie immobilière de Saint-Nazaire.
C'est bien ça.
Et d'ailleurs, hier, nous étions sur le plateau avec Mathieu Nédonchel, avec qui on a fait aussi une très, très belle table ronde. Christine Guinebretière qui est avec
Bonjour.
Nous. Bonjour Christine, comment ça va ?
Très, très bien, merci.
Président de Upcyclea. Alors, vous êtes ce qu'on appelle une start-upeuse.
Oui.
Bon, je trouve ça génial.
Dans le monde de la construction.
Voilà. Le moteur de la prospérité, ça reste et ça demeure l'innovation. Vous êtes d'accord là-dessus ?
Absolument.
Hein ? Il faut que ça en conduise. Et il fallait aussi qu'on ait un architecte sur le plateau qui nous parle aussi de sa vision de la fabrique de la ville. Aaron Poul est avec nous. Bonjour.
Bonjour, ouais, je représente l'agence Obo.
Voilà.
Et je suis très heureux d'être là.
Vous êtes associé de l'agence Obo. Alors, on va parler du premier thème que je voudrais qu'on aborde et que chacun vous me fassiez, qu'on essaie de partager cette vision. On est tous contraints, vous savez, ce qu'on appelle en philosophie les contraintes absolues, auxquelles on ne peut pas se soustraire. On est tous contraints de travailler ensemble avec nos disciplines pour fabriquer cette ville. Ça devient de plus en plus complexe. Aujourd'hui, il n'a échappé à personne que l'impact climatique est une réalité. Il n'y a pas de planète B, il faudra bien tous qu'on vive ensemble. Et nous avons une démographie qui est exponentielle. Hein. On estime qu'en 2050, il y aura 3 milliards d'êtres humains supplémentaires sur notre planète. Et on voit bien d'ailleurs que dans l'impact carbone, dans le climat, et c'est palpable aujourd'hui, on sait que la construction est le deuxième émetteur de carbone au monde après les transports. Et les transports d'ailleurs font leur révolution, même à ce niveau-là. Hein. Donc les questions qu'il faudra nous poser, et à mon avis on n'a que des questions à poser, puisque si on avait les réponses on vivrait au paradis, mais c'est de se dire que quelque part on est tous contraints de réfléchir posément pour intégrer cet élément. Donc j'aimerais qu'on parle de cet habitat urbain, étant un peu le constat d'aujourd'hui, qu'on essaye d'envisager sur comment on peut envisager la fabrique de la ville avec ces nouveaux éléments de la construction. Et je voudrais dire une chose suivante. Cette année, dans certaines métropoles, on a constaté une baisse de moins 47% dans certaines métropoles du taux d'instruction des permis de construire. C'est sans précédent. Hein. Pour remonter à un niveau aussi bas de délivrance des PC, il faut remonter jusqu'à 1982. Le stock d'habilitation du logement social, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est un peu moins de 90 000 cette année, lorsqu'il aurait dû être à 150 000. La ministre du Logement et Jean Castex, et je vais me poser comme ça le décor, a promis 250 000 habilitations sur les deux prochaines années. Moi, je vais faire mon journaliste, je vais dire, j'y crois pas une seconde, parce qu'à mon avis, dans un délai aussi court, je ne crois pas. En tout cas, une chose est sûre, il faudra engager cet élément-là. Le bon signe, c'est que le président, c'est peut-être un lapsus révélateur, le Premier ministre a annoncé et a fait une grande déclaration d'amour au logement social hier dans son discours, et il a promis que le logement social, effectivement, garderait sa ressource fiscale de la taxe foncière, notamment pour les 10 prochaines années, permettant d'optimiser le développement de l'acte de construction. Alors, je voudrais qu'on fasse un premier point global. On va commencer par vous, Stéphane Delbrou. Alors, aujourd'hui, si on fait le point de la construction, quand on tient compte de cette urbanité nouvelle, mais aussi d'hier, quelles sont les grandes évolutions qui touchent particulièrement les filières, notamment dans votre domaine industriel ?
En ce qui concerne les évolutions, elles sont de nature multiple déjà, puisque nous, on est un producteur de ciment, mais on est une matière première pour un système constructif qui est le béton. Donc, la filière est beaucoup en train de travailler à la fois comment on conçoit les bétons de demain et comment on conçoit les ciments de demain. Donc, sur des axes qui sont assez clairs aujourd'hui, hein, dans une feuille de route qui est une réduction de l'empreinte carbone, très clairement. La filière dans sa globalité travaille sur le sujet. Donc, nous, spécifiquement, on investit du coup dans des technologies nouvelles, hein, puisqu'on investit 400 millions d'euros en France, hein, dans des usines dites de nouvelles technologies, visant à réduire l'empreinte carbone de 30% de nos émissions. Donc ça, c'est un premier levier de transformation. Après, la transformation, elle ne va pas s'opérer que par la capacité d'un industriel comme nous à faire du ciment différent. Donc, on va travailler sur la composition de nos ciments, hein. C'est le deuxième levier, celui-ci. Hein. Donc, demain, on va proposer au marché des ciments nouveaux, de constitution distinctive d'aujourd'hui, tout en essayant de préserver les contingences techniques et les contingences d'usage, puisque je reste convaincu que la transformation, elle ne peut s'opérer que si toute la filière se met autour de la table pour se transformer. On n'y arrivera pas autrement, je ne crois pas du tout à ça. Donc, je pense que c'est un travail collaboratif, c'est une vraie réflexion à partager. Et après, on travaille sur les bétons, cette fois-ci, donc pour notre propre filiale, mais en même temps pour la filière en général. Aussi, cette fois-ci, c'est sur le positionnement du béton. Parce que le béton, aujourd'hui, il est utilisé comme système constructif. Il a beaucoup, beaucoup de facultés. Hein. Aujourd'hui, il émet du CO2, mais quand on le regarde à d'autres facteurs d'émission de CO2, c'est 85 grammes pour un kilo de béton. Donc bon, c'est quand même... il faut remettre un peu de perspective derrière tout ça.
C'est clair.
Mais au-delà, je pense que demain, on va bâtir différemment, on va concevoir des bétons différemment, et peut-être même qu'on va transformer la façon même de bâtir. Je pense à des épaisseurs de béton, je pense à aujourd'hui... On s'impose en France des contingences techniques qui sont très très élevées.
Quand vous dites épaisseur de béton, ça veut dire que ça va se réduire ?
On peut réduire des voiles de béton, je pense, dans certains cas. Aujourd'hui, on a des voiles qui font encore 20 cm, on ferait du 16 cm, ça existe dans certains pays. On n'a pas du tout de problème structurel, mais c'est des étapes importantes, parce que ça veut dire que ça va même jusqu'à transformer les textes, ça va même jusqu'à transformer les eurocodes, ça va même jusqu'à transformer peut-être la formation de nos ingénieurs. Donc, parce qu'on va faire autrement et on va faire différemment. Donc, après toute cette transformation, moi je pense qu'il faut accepter la réussite de tout ça, c'est la mixité des matériaux. On va construire avec du béton, on va construire avec du bois, on va construire avec autre chose. On va peut-être même assembler des matériaux, hein, puisqu'on va trouver des combinaisons à faire. Et pour obtenir.
Mais il n'y a pas de chapelle, hein. C'est intéressant.
Non, il n'y a pas de chapelle.
On l'a entendu beaucoup là récemment. Pour être très clair. Opposition béton,
oui,
bois.
Mais...
parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de mode,
oui,
absolue.
Oui.
J'ai, comme vous le savez, je suis éditorialiste sur BFM Business et j'ai fait un dossier sur la tour Danube d'Elitis en ossature bois à Strasbourg. Et on a parlé aussi du projet de cette tour la plus haute du monde en bois, Mostarnet, en Suède. Vous savez, 10 000 mètres carrés habitable, etc. Et en fait, quand on parle on en parlera avec des architectes, mais il n'y a pas vraiment de chapelle. Ils disent, voilà, on est sur une façon opportune qui répond à des demandes et qui finalement se globalise. C'est intéressant ce que vous dites de ce point de vue-là.
Oui, mais je pense que, à mon avis, il faut faire attention parce qu'on focus beaucoup sur le CO2 aujourd'hui. Mais la ville de demain, ce n'est pas que ça. C'est comment on gère les eaux, comment on gère les effets des lieux de température, comment on gère les en plein été des enfants qui peuvent plus être dans une cour d'école parce que la température est tellement élevée.
C'est clair.
Donc, là, la mixité des matériaux, elle va apporter des solutions. Et là, le béton, il a des fonctionnalités qu'il faut mettre en évidence. Donc demain, on va gérer différemment et la ville, on va la construire différemment. Et en plus, la ville, elle va peut-être être une ville en élévation. Donc comment on utilise au mieux l'espace qui nous est alloué ?
C'est sûr qu'elle sera en élévation.
Bien sûr que c'est sûr. Donc il faut...
Parce qu'on ne peut plus étaler.
Mais non, mais on ne peut plus.
Vous êtes favorable à la verticalité, Stéphane Delevaux ?
La verticalité, moi, je trouve qu'elle est favorable. Le béton a toute sa place. Après, il faut attention, la verticalité, pour peu qu'on crée des espaces qui soient de vrais espaces à vivre. On doit y aller pour travailler, on doit y aller pour faire du sport, on doit y aller parce qu'on a l'école, on doit y aller parce qu'il y a de la culture. Et la ville de demain, c'est quand même tout ça, et y compris des transports en commun qui nous permettent de nous préserver. Donc moi, je suis très confiant. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses qui sont assez exceptionnelles. Mais la dualité béton-bois, je pense que c'est un faux débat. Donc,
d'accord.
Très honnêtement, pour moi, c'est un faux débat.
Oui, mais je suis d'accord avec vous.
On arrive à mélanger du bois et du béton aujourd'hui.
Encore faut-il pour ça, Stéphane, qu'on puisse faire un peu de pédagogie pour ouvrir le débat. Parce que voilà, souvent, on a des idées à tout. Alors, on va faire circuler la parole. Franck Gourdel, justement, à la lumière de ce que nous dit Stéphane, effectivement, verticalité égale effectivement un stop relatif, mais quand même un stop de l'étalement urbain, zéro artificialisation nette, on désartificialise, c'est une bonne chose, on réintroduit la nature en ville, on a des communs aujourd'hui qui sont beaucoup plus élevés en volume par rapport à la construction. Franck, réaction sur ce que vient de nous dire Stéphane, et justement sur comment on peut penser cet urbanisme. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que dit Stéphane Delevaux, c'est le fait que même les formations d'ingénieurs pourrait être modifié. Non, c'est important, avec une nouvelle façon de voir les choses. Franck, réaction.
Ouais, effectivement, je partage les propos de Stéphane. On est confronté aujourd'hui à une évolution sans précédent au niveau du mode de construction, avec une multiplicité des matériaux. Et on voit qu'il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent pour construire, et une réelle complémentarité. Et je pense effectivement que le béton a toute sa place dans les futures constructions, parce qu'il a des propriétés qu'on pourra sans doute pas remplacer, mais par contre associé à d'autres matériaux, donc le bois sans doute, parce qu'on voit que c'est aujourd'hui indispensable, les écomatériaux ou autres. Après, en ce qui concerne la densité, la verticalité, l'enjeu c'est de la faire accepter, donc la faire accepter
aux habitants. Le problème c'est l'acceptation, bien sûr.
Pour qu'ils vivent dans leur logement avec toute la qualité attendue, qualité d'usage à proximité, et surtout la faire accepter aussi effectivement c'est aux gens qui habitent déjà sur place. Et là c'est toute la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui dans les projets. Faire accepter un projet plus dense que son environnement, c'est compliqué et il faut un certain courage aussi pour le faire passer auprès des habitants.
Christine Guinebretière, vous êtes une start-upeuse avec Upcyclea, spécialiste de la construction. C'est clair que ça vous parle, ces enjeux urbains. C'est la raison même de la création de votre entreprise, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc on a un regard qui est différent, complémentaire, et qui va complètement dans le sens qu'on est en train de partager actuellement. C'est-à-dire que souvent, on voit aussi le point de vue environnemental comme étant une barrière ou un frein au déploiement des futurs bâtiments et des futures villes. En réalité, la façon dont on va le regarder, ça va être la capacité du produit, quel qu'il soit, issu des filières sèches, quelle que soit leur filière, que ces produits soient recyclables. Parce qu'en fait, le point principal qui n'est jamais évoqué par rapport au défi climatique, c'est qu'on est en train de mettre le poids de notre économie sur du réemploi de déchets et sur une empreinte CO2, alors que le défi climatique, il va venir sur notre capacité à la planète à régénérer, donc les humains, à régénérer les matériaux, parce que tout le monde oublie le défi climatique en 2050, avec la pénurie des matériaux en plus. Donc en réalité, si je puis me permettre, le point le plus important, c'est pas de se dire c'est béton, c'est plastique ou c'est bois, et je grossis le trait, mais c'est de se dire, est-ce que chacun de ces industriels vont avoir la capacité à mettre sur le marché des matériaux qui ne seront pas des déchets dans le futur et qui seront réutilisés. Quand on commence à réfléchir de cette façon-là, on va collaborer à plusieurs pour voir quelles sont les possibilités de collaboration, les possibilités d'innovation. C'est une des raisons pour laquelle on a créé, nous, notre logiciel.
C'est hyper vertueux, parce que c'est quoi ? Vous êtes en train de parler d'économie circulaire.
C'est économie circulaire. Hein,
notre logiciel, vous ne l'avez pas dit, mais en fait, c'est pour concevoir et exploiter des bâtiments en économie circulaire. C'est 5 ans de recherche, 12 ans d'expertise dans le métier de l'économie circulaire. C'est aussi un mode de pensée, une philosophie qui s'appelle cradle to cradle, berceau à berceau, où là, on va s'intéresser à l'usage du produit
mais
et donc
quoi,
à l'usage du bâtiment.
Par exemple, des déchets, par exemple, l'utilisation des remblais, l'utilisation.
Alors, nous, on ne parle pas de l'utilisation des déchets, ouais. On va parler de l'utilisation des ressources usagées, surtout avec la nouvelle législation qui arrive.
Ça tourne la dialectique dans ce genre de truc.
Mais elle est super importante.
Non, mais vous avez raison. Non, c'est important. Vous savez,
la ressource usagée appartient toujours à un propriétaire.
Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Hein.
Alors,
c'est
la ressource usagée appartient toujours à un propriétaire. Et une des raisons pour laquelle on est ici au congrès de l'USH...
Une ressource, par exemple. Citez-moi un
exemple. J'ai un bâtiment dont je suis le propriétaire en tant que bailleur. Et donc, je vais mettre en place des filières de valorisation de mes ressources usagées, peut-être pour qu'elles retournent directement dans les usines de monsieur, pour refaire, par exemple, du béton ou du ciment. Ça, c'est déjà possible. Ça existe. Ça n'a juste pas été codé par des algorithmes pour pouvoir être efficace dans son fonctionnement. C'est ce que fait Upcycler maintenant. Donc on peut choisir des produits... Et donc, oui. On a une vision, est-ce que ce produit est circulaire, oui, non. Quels sont les additifs qu'il y a dans le produit? Est-ce que c'est bon pour la santé et l'environnement? Quelle est l'empreinte CO2? Et nous, dans empreinte CO2, on s'amuse un peu à regarder côté bois, parce que tout le monde parle du CO2 du bois. Personne ne regarde la forêt primaire qui est détruite par des forêts industrielles. Donc, du coup...
Et la capacité de captage d'une petite forêt,
exactement.
Avec une forêt qui a 200 ans.
Exactement. Et puis surtout, en fin d'usage, qu'est-ce qu'on fait du bois s'il a été traité par des produits qui font qu'on ne peut plus le réutiliser?
Bien sûr.
Et donc, où est l'empreinte CO2 du bois au départ? Donc, on n'oppose pas les matériaux. On demande simplement, lorsqu'il y a des projets immobiliers, de s'intéresser au bon choix de matériaux circulaires avec la meilleure empreinte CO2. Mais dans quelle mesure ils ont une capacité à être recyclés dans le futur, retournés dans des filières de production pour pouvoir faire des bâtiments qui soient eux-mêmes en économie circulaire. Chemin faisant, lorsque le bailleur fait cela ou lorsque la foncière fait cela, en utilisant un des modules de notre logiciel, on va lui proposer automatiquement les bonnes filières de valorisation et donc évidemment les grands fabricants de produits qui sont déjà dans notre Upcyclea Cloud où ils peuvent remplir des passeports circulaires, des cartes d'identité de leurs produits. On leur propose même d'avoir éventuellement des accords cadres avec leurs clients pour qu'ils puissent être connectés derrière dans notre logiciel et pour pouvoir se parler au moment où on va sortir ces matériaux de bâtiment.
Vous travaillez ensemble?
Pas encore, mais on va le faire.
Mais on va en parler après.
Ouais, je pense que... Non, mais c'est intéressant. C'est très...
Donc c'est une vision qui est complètement différente.
Vous êtes complètement dans le sens de l'histoire, hein, Christine.
Mais écoutez, j'espère. on fait tout pour, en tout cas.
Ah, mais je vous le garantis. Alors, je voudrais voir le point de vue de l'architecte que vous êtes, Aaron.
On est quand même près d'un million de mètres carrés construits selon cette méthodologie.
Alors justement, c'est très stimulant. Est-ce que aussi les architectes envisagent maintenant différemment la façon de l'acte de construire avec tout ce qui se passe en ce moment?
Alors les architectes, j'aurais du mal à parler pour eux parce qu'ils sont nombreux et très...
On va dire l'architecte que vous êtes.
Très différent, mais enfin, je peux parler de ce qu'on essaie modestement de faire chez Obo. Effectivement, on croit beaucoup à tout ce qui vient d'être dit. On adhère, et moi j'adhère évidemment, parce qu'en fait, sans avoir aucun a priori, nous on s'est mis à regarder les choses en fait très factuellement, à compter. Grâce justement au BIM dans lequel on s'est engagé très fortement depuis 5 ans. Et on a vu qu'avec des outils très poussés très tôt dans les projets, on pouvait profiler en fait les opérations dès l'implantation des masses bâties, dès les choix de coefficients de forme, d'enveloppe, etc. Et donc on pouvait se mettre à compter le carbone. Donc on s'est mis à s'approcher des labels en vigueur en partant de BBCA, puis on est monté vers les nouveaux labels plus récents et notamment locaux, Bordeaux, région Aquitaine. Et à chaque fois, on essaie de comparer les choses sans aucun a priori. Et on se rend compte qu'on peut avoir des opérations où on fait de l'industrialisation béton, filière sèche, des projets 100% bois, préfab bois, avec une filière locale qui doit mixer, bien sûr, du bois d'importation d'ailleurs, puisque en Aquitaine, c'est un sujet compliqué. Il faut lameller le bois avec du local et du non-local. Et puis, bien sûr, on regarde des choses mixtes, puisque c'est l'avenir. Et notamment, parfois, on mixe jusqu'à mettre dans une structure béton, qui est un squelette efficient, on va dire, pour toutes les qualités qu'on connaît, donc portance, stabilité, acoustique, incendie, inertie thermique. Eh bien, on marie ça, effectivement, avec d'autres parties du projet dans son clos couvert, notamment, avec des matériaux, des éco-matériaux, de la terre, qui est un vrai sujet, la BTC en ce moment, qui est en train d'avancer. Et on regarde tout ça, sans a priori. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une vraie question de conception, en fait, tout simplement, d'efficience constructive sur l'économie de matière et en même temps la recherche de confort, qualité d'usage et confort. Donc en fait, ça arrive toujours quasiment à la question, et c'est un des concepts forts sur lesquels on se mobilise chez Obo, c'est faire mieux avec moins. Et on revient toujours sur ce sujet. Et ce qui est assez intéressant dans la RE 2020, c'est qu'elle nous interroge là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut réduire le carbone, mais il réintroduit aussi la notion de confort. C'est-à-dire le nombre de jours d'inconfort dans l'année. Et donc, bien évidemment, si on imagine le comportement d'un bâtiment tout bois dans un climat tempéré, tendance méditerranéenne, on sait qu'il y a des sujets complexes. Et donc, du coup, on se réinterroge sur la capacité du béton et son inertie. Et donc, du coup, dans ce comptage-là, le béton bas carbone, si on le regarde en bilan énergie carbone, eh bien, il est très intéressant. S'il est bien conçu, c'est-à-dire si on a rationalisé les structures...
Et c'est un vrai progrès par rapport à l'ART 2012,
oui, oui. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on est tous face à un défi. C'est-à-dire qu'on a tous les gens autour de la table, les politiques, parce qu'on a bien vu qu'il y a une sorte de vague sur laquelle tout le monde a un peu surfé avec les dernières élections, et puis une vraie volonté d'amélioration, avec bien sûr une grande pensée écologique, on va dire, avec des enjeux socio-environnementaux. Mais là, on est un peu dans le dur maintenant, c'est-à-dire qu'on vérifie la réalité de ça. C'est-à-dire comment on débloque le système pour débloquer justement les fameux permis de construire, comment on fait des opérations réalistes où on fait mieux sur le carbone, bien sûr, tout en préservant le confort d'usage pour les 50 ans à venir, parce que le climat, on sait ce qui se passe, et en même temps, en arrivant à faire des bilans d'opérations faisables au niveau financier, parce que c'est un vrai sujet en ce moment.
Absolument.
Et qu'en gros, on arrive à construire pour enfin donner des logements viables aux gens qui en ont besoin.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça plaît beaucoup aux élus locaux. Non, mais c'est intéressant, parce que pour les appels à projets, quand on est en compétition sur des appels à projets, c'est ce qui fait la différence. J'ai participé, je peux le dire. J'ai même présenté des projets dans mes activités, parce que j'ai aussi des activités structurelles immobilières. J'ai un groupe immobilier à Paris. Ça fait vraiment la différence. On voit bien l'impact. Justement, Patrick Soubiran, vous, construction industrielle rationnelle, alors moi j'aime beaucoup le je ne sais pas qui a créé ce nom.
Le nom de l'entreprise, l'entreprise a été créée en 53.
En 53.
Donc il faut se remémorer la sémantique.
Construction industrielle rationnelle.
On était dans les 30 glorieuses de l'époque.
Donc il faut imaginer
des procédés très...
En marketing, je trouve ça génial, surtout dans une période de frugalité comme aujourd'hui.
C'est ça. Pas donc aujourd'hui, toute la quintessence de ce sigle revient d'actualité. Quoi.
Oui. Alors Patrick, comment vous avez écouté tout le monde.
Oui.
Donnez-moi votre point de vue. Moi, je retiens plusieurs choses. Verbatim, frugalité des matériaux, voire même une frugalité même dans la vision même de la construction, quelque chose qui est assez sobre sur l'empreinte foncière. On voit justement que les formules béton ont considérablement évolué, on peut le dire. Ce que ne sait pas le grand public, je vous le dis, parce qu'ils ont une vision parfois un peu... Donc c'est intéressant de faire un peu de pédagogie là-dessus. Des fonctions très opportunes qui mixent finalement les matériaux, c'est ce que dit Christine, effectivement, avec la possibilité de tracer. Parce que moi, ce que j'aime bien dans votre système, c'est le système de traçage. Parce que c'est pas le tout de dire qu'on est écologiquement responsable ou qu'on est en mode RSE, entre guillemets, par exemple, ou avec un impact maîtrisé. Encore faut-il traquer les matériaux géosourcés, biosourcés, écosourcés, avec la possibilité de travailler en énergie et en économie circulaire. Votre point de vue, Patrick.
Oui, donc vous l'avez bien compris, nous, on est très en aval dans le processus, dans la chaîne de production.
Oui. Vous préfabriquez,
On préfabrique, donc on est concepteur de solutions préfabriquées et on répond donc sur les appels d'offres classiques de bâtiments, si vous voulez, mais sur la base de solutions entièrement préfabriquées. On fait du hors-site. Voilà, on se veut être un des spécialistes du hors-site aujourd'hui sur la base de modules et de solutions en 2D, voire en 3D, à de solutions en béton préfabriquées.
Ça se développe de plus en plus, hein.
C'est un petit peu, je dirais, la porte qui s'ouvre aujourd'hui sur l'évolution d'abord sur le logement social, logement universitaire, résidence étudiante. Et donc, demain, le béton devrait pouvoir être en mesure, en récupérant, je dirais, le produit de l'industriel avec sa recherche de baisse de carbone, si vous voulez, puisqu'on a bien noté 85 grammes de CO2 au kilo de ciment, c'est l'objectif, c'est la réalité d'aujourd'hui, mais demain Stéphane il ne l'a pas dit, mais il va baisser de plus de 30% ce ratio là et à terme on sera peut-être éventuellement sur sur du CO2 positif, au sens où il n'y aura pas de production de CO2 sur la fabrication du ciment. Là on aura tout gagné. Je veux dire, on aura tout gagné. Nous on va récupérer en amont, si vous voulez, un produit bas carbone. Avec des qualités, et nous on est là pour le transformer en béton, tout en respectant, je dirais, l'image et le voulu de l'homme de l'art pour répondre aux attentes des maîtres d'ouvrage. Et donc nous là-dessus on essaie d'amener une plus-value, on apporte notre compétence technique, c'est-à-dire que dans la recherche de réduction de volume, puisque c'est là où on peut intervenir,
bien sûr,
le produit naturel va être bas carbone, il va se diriger vers une baisse de carbone, nous on va adapter techniquement, malheureusement encore aujourd'hui on respecte les normes. Donc les diminutions, les contraintes techniques, les diminutions de volume, la portance, etc., il faudra retravailler, reformer effectivement
tout le quota d'engineering béton, béton armé, ou voire béton, béton industriel. Et donc nous, à partir de là, on peut travailler sur une réduction de volume. Donc non seulement on baissera le carbone sur la matière première, mais nous on baissera le carbone sur la partie globale et reconstituée du produit. Tout en voulant effectivement rester et reprendre les images, les attendus de l'architecte.
Est-ce que vous percevez avec les clients, que ce soit des promoteurs, constructeurs, maîtres d'ouvrage, que leur niveau de compétence à ce niveau-là a intégré ces nouveaux types de matériaux?
Oui.
Et
oui.
Que ça casse un peu le mythe, tu vois?
Oui.
Quelque chose qui dit, voilà, ok, on voit qu'il y a une vraie progression, une vraie innovation dans l'utilisation de ces matériaux.
Alors, à deux échelles, je dirais l'investisseur qui veut capitaliser sur son investissement.
Mais oui.
Donc, lui, forcément, il regarde droit devant, il a un objectif lointain, et il recherche, donc, je dirais, cet objectif, quoi. Et après, il y a le bâtiment qui est de courte durée, effectivement, qui pourra être amené, lui, peut-être à évoluer dans le temps aussi, où là, je dirais, la contrainte, les objectifs sont peut-être moins clairement affichés.
Ouais, je comprends. Oui, Aaron.
Oui, je voudrais juste dire, parce qu'on se connaît bien sûr avec Patrick, on travaille beaucoup ensemble, c'est qu'il y a la recherche de la matière et la force en fait de la démarche industrialisée. Et c'est vraiment l'extension naturelle du BIM en fait. C'est-à-dire que quand vous arrivez à tout pré-synthétiser, c'est-à-dire à tout virtualiser avant, et là il faut tout de suite comparer le bâtiment avec l'industrie automobile et l'industrie aéronautique.
Absolument.
La révolution en cours à terme, c'est celle-là.
Une très bonne
et donc
analogie.
On préfigure le maximum de choses, et l'extension naturelle de ça, c'est l'industriel et la préfabrication. Et aussi, il y a la question des délais. En fait, il y a la propreté des chantiers, et il y a une gestion des délais et leur maîtrise qui est quand même assez phénoménale, puisqu'on parle d'opérations, par exemple, de logements qu'on a pu réaliser ensemble, où on s'est livré des ensembles de logements étudiants, par exemple, 8-9 mois livrés. Donc c'est des délais assez hors
norme. Parce que le gros impact de votre... merci de parler du BIM, parce que c'est...
Oui, tout est lié, en fait.
Pour moi, y a...
Y compris le comptage carbone.
Absolument.
Tout est lié.
Et ça permet de gagner même des mètres carrés, si je peux me permettre, d'optimiser les mètres carrés dans le système. On avait estimé, on avait fait une estimation un peu macroéconomique, que si on doublait le nombre de chantiers en mode BIM aujourd'hui, qui est très faible en France, qui est moins de 20% quand même, je crois qu'on est à 10 ou 12% de chantiers, je ne sais pas si vous avez les chiffres nationaux. Si on doublait, on pourrait gagner plusieurs millions de mètres carrés. C'est phénoménal. Pourquoi ça, on n'arrive pas encore à intégrer les confrères, les collègues architectes n'ont pas encore tout intégré cette formidable méthodologie qu'est le BIM. Aaron, juste voilà.
Enfin, je crois que c'est toutes les grandes transformations. Ça prend du temps. Y a quand même une grande technicité.
Vos collègues architectes qui n'utilisent pas le BIM, vous dialoguez sur les...
Non, enfin, peu, parce qu'en fait, on est un peu dans une bulle, souvent.
Ouais, je comprends.
On n'est pas, entre architectes, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie de la profession.
Et vous, l'outil, vous l'avez adopté très vite, en fait.
Ah oui, bien sûr. Enfin, oui, depuis 5-6 ans, ouais.
Ah oui, c'est énorme. Oui, Christine.
Oui, en fait, je voulais ajouter un point. Donc, effectivement, le BIM, si on veut bien aller jusqu'au niveau de l'objet BIM, alors nous, au Psycléa, on sait se connecter avec les objets BIM dans les maquettes. Et donc, on calcule automatiquement. Pour le maître d'ouvrage qui est en train de construire le bâtiment, on va calculer automatiquement des indicateurs de l'empreinte CO2. Donc ça peut être double usage ou pas, mais nous, on va vraiment au niveau de l'objet BIM. Donc de l'empreinte CO2, le degré de circularité du bâtiment, son degré de non-toxicité et sa valeur ROI. Donc quand on se connecte, par exemple, avec un outil BIM au niveau des objets BIM, et là, on a des grands fabricants de produits qui commencent maintenant à remplir leurs informations dans notre librairie Upcyclea Cloud. Ils récupèrent le petit lien... l'identifiant unique, il peut le mettre soit directement dans de l'Excel pour tous ceux qui n'utilisent pas encore de BIM, parce que c'est aussi une question de coût aussi souvent sur les projets. Ce que je peux voir, c'est que ça coûte un peu cher.
Ouais.
Ou alors ils importent dans l'objet BIM directement, dans leur maquette, et on se synchronise. Et du coup, ça permet d'aller vers le fameux BIM j'aime, le fameux BIM rêvé par tout le monde. Nous, on a un petit peu la capacité à le faire maintenant derrière, mais on va aussi se connecter avec les objets, avec les outils de Facility Manager. Puisque c'est une raison pour laquelle...
Sans compter que ce mode BIM, en amont et en aval de la vie du bâti, permet d'avoir ce qu'on appelle un jumeau numérique.
Ouais. Exactement.
Qui permet aussi d'accompagner...
C'est l'histoire du bâtiment.
C'est l'ADN, c'est le code ADN du bâtiment. Si on veut travailler sur les pathologies futures, oui, accompagner la vie du modèle, parce que c'est un organisme vivant, un immeuble.
Exactement.
Mais il faut accompagner.
Mais il faut que ça rapporte de l'argent à son propriétaire. Pour la mise à jour des données.
Ah bon ?
Oui, parce que si vous avez des coûts en permanence, il n'y a personne qui va mettre sa mise à jour.
Par contre,
si vous vous synchronisez avec un outil comme Upsycléa, le seul fait de mettre en place les filières de valorisation, mais on y a pensé beaucoup. Je le vois sourire,
Non, non, mais vous le vendez super bien.
Ce sera une diminution du coût induit. Ça va rapporter de l'argent.
Si Christine vous parle, vous achetez la solution.
Vous plaisantez.
Je vous taquine, mais c'est vrai.
Si vous entretenez votre voiture, c'est pas pour l'amener à la casse, c'est que vous avez bien intérêt de faire des économies ou récupérer de l'argent. Si dans Upsycléa, MyUpsycléa, vous mettez à jour votre liste de produits parce que vous les renvoyez vers les fabricants de produits ou vers du réemploi, et que c'est synchronisé avec un BIM, ça met à jour la maquette BIM automatiquement. C'est QFD.
Franck, est-ce que vous utilisez le mode BIM, ça vous parle ?
Oui, le mode BIM, on l'a expérimenté sur plusieurs projets. Et en fait,
résidences gérées.
Oui. Donc, tout l'intérêt pour le gestionnaire aussi.
Oui, parce qu'à Saint-Nazaire, vous faites des choses remarquables, notamment pour des personnes en difficulté. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Les personnes qui sont en situation de grande détresse, à Saint-Nazaire, il y a des grands projets magnifiques. Des personnes, par exemple, qui sont SDF, qu'on réintroduit dans le monde de logement, on a parlé de ça avec Mathieu, à qui on redonne goût, parce que c'est pas le tout de retrouver un appartement ou un logement pour un SDF, il faut lui donner les codes pour se réapproprier l'espace et l'habitat et la sécurité. Voilà, moi je voulais souligner parce que c'est vraiment important. Franck.
Donc sur le BIM, on a mené différentes expérimentations et en fait c'est compliqué déjà d'embarquer toute l'équipe de maîtrise d'œuvre sur tout type de projet, parce qu'il y a des projets où le BIM s'impose parce qu'ils sont complexes, d'autres où finalement il y a une simplicité du bâtiment et on voit tout de suite que le BIM c'est pas forcément nécessaire de le mettre en œuvre. Et quand on a franchi ce premier écueil, on tombe sur l'écueil des entreprises. Et là, compléter la maquette BIM jusqu'au bout, ça devient quasi impossible avec des petites entreprises encore d'état séparé. Et fois qu'on aurait franchi cet ultime écueil, et en encore un autre, c'est les gestionnaires. Les gestionnaires pendant toute la durée de vie du bâtiment, est-ce qu'ils vont bien penser à aller modifier le robinet qui a été modifié, la douche, etc. Et là, on tombe après sur des pratiques en interne qu'il faut faire évoluer pour tenir à jour la maquette BIM et une grande rigueur qu'il faut mettre en œuvre. Et aujourd'hui, c'est des révolutions dans les organisations.
En termes de formation, en termes d'apprentissage. Alors, il y a encore deux sujets sur lesquels je voudrais que vous exprimiez. Le sujet on en a déjà parlé, c'est l'impact de la RE20. Alors, on a bien compris votre point de vue, Aaron, effectivement. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ce point de vue, je ne l'ai pas entendu souvent. Tour d'horizon, RE2020, impact et mesures, Patrick Soubiran.
Alors nous, on va retenir ce que Aaron a un peu introduit, c'est-à-dire l'inertie du bâtiment aujourd'hui qui rentre comme un critère important dans la RE2020 et qui remet un petit peu le béton au bout du jour, au sens où on lui enlève plus, si vous voulez, ce côté négatif qu'on aurait pu attendre par cette évolution de normes. Donc aujourd'hui, je rebondis un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'évolution du béton dans cette nouvelle normalisation, ce sera de le mettre au bon endroit, sous sol de bonne forme. Et si en plus on a, je dirais, les bons ingrédients initiaux de l'industriel, il n'y a aucune raison que le béton ne trouve pas sa place dans cette évolution. Voilà, donc nous, c'est on clair. Est très... On est attentif sur l'évolution forcément de cette réglementation, mais on est serein quant à notre positionnement sur ce nouvel horizon.
Est-ce qu'elle vous paraît applicable ?
De facto, elle deviendra.
Parce que,
il n'y aura pas le choix.
C'est une réforme qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, il faut le savoir. L'autre fois, j'échangeais avec Benoît Paru, qui était l'auteur de la RT 2012, qui dit « Je me suis un peu trompé dans la RT 2012, parce qu'en fait, j'ai songé uniquement avec le paradigme thermique. » En fait, il me disait, je ne suis pas l'auteur de la RE20, mais ce que j'apprécie dans la RE20, qui est la succession de ce que j'ai initié avec la ITER 2012, c'est cette vision globale du dispositif. Vous, Stéphane Delomeau, a impact RE20 plutôt bien maîtrisé, là, pour le coup.
Moi, je trouve que la RE20, elle a un avantage majeur, c'est qu'elle nous met tous face à nos propres responsabilités. Parce qu'on parle du béton, mais n'oublions pas qu'on ne fait que 25%. Aujourd'hui, la RE20, elle donne le gros œuvre. Il a une quote-part, si vous prenez un logement individuel ou un logement collectif, vous avez la part du gros œuvre, vous avez la part du second œuvre, et après vous avez la partie exploitation. Donc la résultante et le bénéfice de RE20, c'est tout le monde qui doit le faire. Donc, alors qu'on focalise beaucoup sur le gros œuvre, parce que c'est ce qu'on voit, quoi. Donc c'est ce qu'on voit tout de suite. Bon. Mais quand vous regardez les équipements, il faut que tout le monde y travaille. Aujourd'hui, d'ailleurs, on passe la RE20 sans difficulté. On n'a pas de problème pour passer la RE20. On est même préparé pour jusqu'à 2025 sans vraie difficulté. Après, ça met tout le monde face à sa quote-part et son effort à fournir. Donc ça, c'est le premier sujet. Deux, c'est une combinaison constructive à trouver, hein, parce que vous changez un appareil de chauffage, vous changez un système de second œuvre, et du coup, le mode de calcul repositionne quand même un certain nombre de valeurs. Après, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je pense que c'est construire autrement, mais pour être capable de réutiliser les matériaux. C'est la réutilisation des matériaux qui est fondamentale. Aujourd'hui, il faut être capable de faire des bétons et des granulats recyclés. Aujourd'hui, les normes, il faut qu'elles évoluent parce qu'elles sont très contraignantes, on en met très peu. Parce que la ville va se reconstruire, mais pour se reconstruire, il faut la déconstruire. Donc on va déconstruire des bâtiments. Moi, j'ai un exemple concret où j'habite. On a déconstruit une ancienne barre d'immeuble pas très belle. On a tout transformé en granulat recyclé, hein, complètement. Et le granulat va être utilisé pour faire un EHPAD plutôt de très bonne facture.
C'est comment je fais du neuf avec de l'ancien.
C'est comment je refais du neuf avec de l'ancien.
C'est génial.
Et c'est l'économie de la ressource.
Hein, avec un impact carbone maîtrisé.
Et du coup, mais c'est même mieux que ça, parce qu'en fait, le béton lui-même a été carboné. Donc du coup, on a un bénéfice négatif de la valeur du carbone capté par la durée de vie du propre béton qui lui-même vient d'être déconstruit.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Non, mais on calcule tout ça, nous.
Tout est calculé. Dans les modèles de calcul, tout est dedans. Mais c'est très, très important parce que il n'y a que comme ça qu'en 2050. En 2050, c'est l'engagement de la filière.
Neutralité carbone.
Neutralité carbone. Et la neutralité carbone, il faut passer par ça. Vous êtes industriel, vous vous transformez. Vous êtes préfabricant, vous vous transformez. Et vous utilisez les matériaux issus de la déconstruction. Et vous faites un béton neutre en carbone. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Hein. Que comme ça. Donc il faut... Je pense qu'on ne parle pas assez des réussites et des bons exemples.
À la neutralité carbone en
2050. Peut-être pas.
Juste sur le principe de la neutralité carbone, quand on respire, on émet du CO2 et même mort 3 mois après, je pense qu'on émet encore du CO2. Tout ce qui est sujet à CO2, qu'est-ce qu'on met dedans, quoi.
Après, c'est qu'est-ce qu'on met. Après, ce qu'il faut quand même retenir, de toute manière, on dit bien, ça sera le bilan environnemental de tout ça. C'est le bilan environnemental. J'économise la ressource, j'améliore le cadre de vie, je fais des villes agréables pour tous, la mixité sociale, parce que ne perdons pas ça non plus. Et tout ça pour une solution béton qui, à mon avis, va bien à toute sa place. Hein.
Réduction aussi des nuisances.
L'acoustique, les effets albédo, la gestion des eaux.
Une meilleure acceptation du public. On voit que dans les matières...
Et l'esthétisme, on fait du béton blanc et du béton...
Les matières, grâce à l'excellent travail fourni par Catherine Barbiazan, justement, j'ai quelques notions qui me permettent d'avoir un minimum de compétences en la matière. Mais sur la biomasse, les roches naturelles, la terre cuite, les verres, les polymères, l'énergie dépensée pour la production de chacun des matériaux devra être connue pour disposer d'une analyse complète de son cycle de vie. Tout est dit.
Après, il y a une dimension qui est un peu cachée, je pense, hein, très honnêtement. On parle du produit fini. L'économie circulaire et l'économie de... L'appréciation environnementale, elle passe par la capacité aussi d'un industriel à lui-même consommer des produits de deuxième vie.
C'est ça.
Nous, on va substituer l'intégralité de nos combustibles fossiles par des combustibles alternatifs hein, qui, en matière environnementale, évitent des tas de pneus mis entreposés dans des forêts, des huiles qu'on voit à droite et à gauche. Et c'est le bilan global qu'il faut regarder. Il ne faut pas le prendre que par le petit bout de... Je pense qu'il faut regarder ça dans son ensemble.
Alors, j'aimerais qu'on passe à la dernière, mais je ne vous ai pas entendu sur l'Aéro 2020, Franck Gourdel.
L'Aéro 2020, on est relativement serein. Ça fait 4 ans qu'on s'y prépare, parce qu'on avait participé à l'expérimentation U+, C-.
Oui,
donc on a
absolument.
Énormément capitalisé sur un nombre d'opérations assez important. La première étape, effectivement, il n'y a pas de changement majeur, sauf peut-être en logement individuel, où là, il va falloir qu'on revoie un peu notre façon de faire. Mais non, on est plutôt confiant et je pense que c'est une étape importante. Il faut aller continuer vers les étapes suivantes pour justement décarboner la construction. Donc
moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans ce que nous dit Stéphane, c'est justement ce côté presque, j'allais dire, jubilatoire, puisqu'on a une énergie et on a une industrie qui est prête à affronter ce système. Mais ce qui est intéressant, rappelez-vous, Stéphane, on en a parlé. Je vous ai posé cette question. Vous m'avez dit, mais on n'a pas attendu, nous, chez Galcia, d'avoir toutes ces époques liées à l'impact environnemental. Déjà, plus de 15 ans, vous aviez déjà travaillé sur des formules qui permettaient d'anticiper. Donc, ce qui prouve une chose, sur des classes d'actifs, que quand on est sur des schémas industriels, je prends par exemple l'exemple des aciéries et du charbonnage. Les Anglais appelaient ça des stranded assets, c'est-à-dire des actifs naufragés parce qu'ils ne se renouvelaient pas. On voit bien, en fait, que des grosses industries comme la vôtre sont emblématiques, multinationales, en fait, gardent cette fragilité, cette flexibilité, j'allais dire cette agilité, grâce à l'innovation. On voit bien que l'innovation, c'est un phénomène anthropologique en soi.
Oui, bien sûr. Mais après, nous, on a des sites dans notre groupe. Hein, ouais. Aujourd'hui, on fait du captage de CO2. Ouais. On capte complètement le CO2.
Il y a une chose que j'aime bien aussi dans votre boulot, c'est que vous m'avez appris une chose. C'est qu'on ne peut pas délocaliser dans votre métier.
Non.
On a des cimenteries à proximité. Non, mais attendez, c'est hyper important.
Bien sûr.
Alors, c'est sûr que parfois, il y a, par rapport à un public ou les riverains à côté de la cimenterie, je sais qu'il y a quelques sujets là-dessus, c'est pas toujours super top. Mais je trouve ça pas mal dans un monde comme le nôtre de se dire qu'il y a des industries qui ne sont pas délocalisables et qu'on crée de l'énergie à proximité. Encore faut-il aussi vous accompagner et vous aider dans ce schéma-là. Quoi, hein. Ce qui n'est pas toujours le cas avec certains élus. Hein.
Ce qui n'est pas toujours le cas.
Ouais.
Ce qui n'est pas toujours le cas. Peut-être aussi bon, à nous de faire la communication et la démonstration des faits.
Voilà, on est là pour... Voilà,
non,
merci.
Non, mais... Bah, moi, je suis très confiant, honnêtement. Moi, j'ai pas d'optimisme débordant, mais on maîtrise des technologies. On a un actionnaire qui nous permet de transformer tout notre parc industriel.
C'est hyper important.
400 millions d'euros, c'est considérable.
Ouais, En France.
Et après, je reste convaincu que, et je suis assez d'accord avec ce que vous dites, il faut décloisonner les silos parce que c'est pas moi je fais ça, non, c'est clair.
Dernier thème,
je voulais rajouter parce qu'on n'en a pas tout à fait parlé sur les notions de mixité, de matériaux, etc. Et en gros, le durable, c'est en tant que concepteur, en fait, c'est la question de la réversibilité. Et concevoir les structures, enfin, il y a des filières pour recycler les matériaux et toute une démarche, mais imaginer des structures. Les combinaisons de matériaux, leur capacité à durer au-delà de leur utilisation en restant, c'est-à-dire sans être déconstruites, mais transformées, induit des choix de conception sur les matériaux de structure.
Et ça, dès le départ.
Et ça, c'est la vraie durabilité.
Vous faites allusion à la transformation de bureaux logement, par
exemple. Mais oui, mais si on ne les avait pas construits en matériaux pérennes au niveau des squelettes, si vous voulez, on ne pourrait pas avoir le luxe de se dire qu'il faut les réinvestir. Et donc, si on va au bout de l'honnêteté dans les raisonnements, ça fait partie des choix sur l'assemblage des matériaux, c'est-à-dire le bon matériau au bon endroit, pour combien de temps, et c'est peut-être au-delà de 2050 dans ces raisonnements-là.
Et c'est là
un
vrai sujet.
C'est pas un bâtiment pour une vie, c'est un bâtiment pour plusieurs vies.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que toute la philosophie cradle to cradle, c'est justement, en anglais, désolé, hein, build for disassembly, c'est-à-dire que c'est construire pour désassembler, donc c'est le réversible, aussi bien dans les systèmes donc constructifs et le choix des matériaux sur lesquels on s'appuie.
Je
voulais une précision.
Oui.
J'aimerais que vous nous donniez bien la différence, parce que moi, je l'avais pas compris comme ça.
Oui.
Déconstruire, reconstruire, c'est une chose. Transformer un bâtiment, c'en est une autre. Oui,
d'accord. Oui, parce que si vous... Je fais toujours le comparatif dans d'autres univers, en fait, hein, sur notamment la question industrielle, l'aéronautique, les voitures et les questions de pièces, d'assemblage, d'équipement. Et on voit qu'il y a une vraie réflexion qui passe par les normes, le confort, le bas carbone, mais aussi sur cette façon de pouvoir imaginer qu'il y a une partie du bâtiment qui sera peut-être moins possédée par le propriétaire ou l'exploitant, c'est-à-dire qu'il peut-être il possédera les matériaux, les éléments de construction pendant une certaine durée. Ça se fait dans d'autres pays plus nordiques, ça.
Mmh.
Et puis au bout d'un certain cycle ou une utilisation, voire une location, on peut imaginer que toute une partie du bâtiment est désassemblée, remise dans un cycle, un cercle vertueux de réutilisation. Et une partie, en revanche, reste parce qu'elle a été amortie.
Tout à fait.
Elle a déjà eu son impact. Il ne s'agit pas de la redoubler plusieurs fois. Et ça, c'est l'avenir de villes denses, peut-être déjà construites, et les enjeux de ce qu'on va construire en neuf dans une vision à plusieurs vies. Donc les choix de matériaux sont guidés aussi par ces raisons.
Ça sera l'économie de la ressource.
Exactement.
Alors, on va devoir se quitter, puisque je suis appelé au ministère du Logement, justement, pour l'animation d'un... l'Assemblée cet après-midi, mais je voudrais quand même dire un mot, faire un focus sur le béton dans le plan d'action de l'Union sociale pour l'habitat. C'est quand même un sujet important. Il y a aujourd'hui, et merci encore une fois à Catherine Barbiazan de nous avoir fait une note très précise justement sur la question, une stratégie bien établie pour favoriser l'effort de construction. Donc vous le savez, par exemple, Action Logement est alimenté par l'APEC, hein, la participation à l'effort de construction, et que donc il y a une vision multipolaire du dispositif, dont le béton fait partie. Il faut quand même le dire, et il y a beaucoup d'informations qui circulent là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on fasse une espèce de synthèse rapide, avant de nous quitter, sur justement le fait, je voudrais reprendre vos propos tout à l'heure, qu'aujourd'hui, cette mixité à la fois des usages, cette mixité fonctionnelle, d'accord, nous amène finalement à coopérer de façon beaucoup plus harmonieuse. Voilà. J'aimerais que chacun vous nous donne une espèce de verbatim qui nous laisse espérer, qui nous donne, à 7 mois d'une élection présidentielle majeure pour la politique du logement dans notre pays et de l'effort de construction, importante. Si vous en êtes d'accord, je vais commencer par vous, Christine.
Eh bien, chez Psyclair, on est résolument et aussi bien radical d'un point de vue environnemental qu'optimiste, parce qu'on a déjà mis sur pied, accompagné, et dans nos logiciels, on suit des projets qui ont des impacts positifs sur la santé et l'environnement. Et donc, je peux vous dire que ça existe déjà. Et donc, oui, le collaboratif, ça va être la solution au problème que vous nous indiquez là, mais pas collaboratif uniquement entre humains, mais collaboratif avec la planète aussi. C'est-à-dire savoir gérer nos ressources, savoir gérer ensemble, en tant qu'humains, les ressources que la planète nous donne, et s'assurer...
Des ressources qui ne sont pas toujours...
les générations futures.
Voilà, inépuisables. C'est pour ça que nous sommes condamnés à trouver, justement, des ressources qui sont renouvelables, que l'on peut réalimenter et qu'on peut géosourcer. Je pense simplement le bois, avec le fait de replanter systématiquement, d'avoir un schéma de replantation, même si aujourd'hui, la filière n'est pas super bien construite, mais elle y arrive. Je pense que ce que vous dites est fondamental. Merci beaucoup.
Alors, nous sommes une espèce naturelle. Hein. Oui. On fait partie de la nature.
Non, alors, mais Christine Guinaud-Bretière, vous êtes la présidente de Opsyclair. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Un mot, Franck Gourdel, et merci d'avoir participé à ce débat.
Merci.
Effectivement, enfin, on voit qu'aujourd'hui, sur tous les projets, on travaille vraiment tous ensemble pour imaginer à la fois une réversibilité du bâtiment, un réemploi des matériaux et aussi, effectivement, des usages partagés. C'est vraiment aussi quelque chose de nouveau. Enfin, on essaye, lorsqu'on crée un espace commun, une salle, un parking, forcément d'imaginer plusieurs usages pour éviter de démultiplier les équipements. Et ça, je pense que c'est très vertueux et ça permettra aussi de limiter la quantité de matériaux consommés.
Merci beaucoup, Franck Gourdel. Je rappelle que vous êtes directeur technique et innovation, j'aime beaucoup, CISN, compagnie immobilière de Saint-Nazaire. Est-ce que vous faites sur le plan humain et de l'accueil des populations vulnérables? Moi, j'adore et je viendrai avec plaisir chez vous pour visiter vos résidences. Stéphane Delomeau, directeur commercial de chez Cassia. Quelques mots, voilà. La méthode Coué.
Moi, je dirais juste que construire notre nouveau cadre de vie, ça ne passe que par la concertation et l'échange entre toutes les parties prenantes.
Merci Stéphane Delon. Ça, ça peut être une bonne punchline là, pour la radio, là, pour le coup. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Ciment Calcia. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Patrick Soubiron.
Oui, donc d'abord merci de nous avoir conviés. Moi je dirais juste une chose, c'est qu'on a déjà fait un petit peu notre révolution industrielle, nous.
Ah, c'est clair.
C'est qu'on a déjà organisé la production de demain dans des usines ultra modernes. On recycle la matière, on recycle l'eau, on est autonome en consommation d'eau. Le béton frais qu'on n'utilise pas, on le réinjecte dans le process de production. Et je dirais que... par l'intermédiaire des nouveaux matériaux, du nouveau ciment de demain, on est armé pour répondre demain à ce que nous demandera les hommes de là et pour rentrer, je dirais, dans le béton de demain avec ses nouvelles contraintes environnementales et ses nouvelles exigences. Donc le béton aura toute sa place.
Merci beaucoup Patrick Soubiron. Je rappelle que vous êtes à la tête de construction industrielle et rationnelle. Alors, bravo. Merci. Entreprise, je rappelle quand même, qui existe depuis 1953. Hein, changez rien. Hein, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Aaron Poul, architecte associé à Obo. Quelques mots pour nous laisser aussi un peu espérer, mettre un peu de couleur dans tout ça.
Oui, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne table ronde. Enfin, c'est assez enthousiasmant.
C'est un plaisir de vous écouter. Moi, je vous le dis, je bois vos paroles.
Oui.
J'ai compris. Et on sent que le mode BIM, ça me plaît beaucoup. Voilà.
Oui, puis c'est pas un gadget, tout ça, on pourra en reparler. Mais en fait, il y a vraiment une énergie collective pour le mieux faire. Hein, c'est-à-dire, ce qu'on disait tout à l'heure, faire mieux avec moins est un vrai challenge global. Et bien évidemment, ça, il y a une forme de pression. Il faut y arriver, tous. On est tous face à ça. Et à la fois, c'est un défi formidable. Je trouve qu'on vit une époque. Incroyable, où on peut transformer les choses. Et voilà, nous on est très motivés pour ça et avec tous les partenaires autour de la table.
Merci beaucoup, merci également donc aux équipes d'avoir préparé cette table ronde. Catherine Barbiazan, directrice marketing et communication de Ciment Calcia. Je rappelle que toutes les infos sont à retrouver sur les sites internet, à la fois sur le site de Radio Immo et de Territoria avec cette table ronde en streaming, mais Calcia Info aussi. On a toutes les infos. D'ailleurs, on va se retrouver pour justement prendre la parole un peu plus avec vous, Stéphane Delomeau, pour donner au public aussi les clés de compréhension et les clés d'isivité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, l'acceptabilité résulte d'une chose, la concertation. Et on a vu d'ailleurs le nombre de recours baisser dans certaines métropoles. J'étais là aussi pour y assister parce que la concertation était structurante et donc l'acceptation était meilleure. Donc forcément, il y a quelque chose de vertueux, encore une fois, en associant tout le monde dans cette idée. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé.
Merci.
Et je vous souhaite un excellent congrès. Merci à vous.
Merci.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.